BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains. Et les cryptos, les pros des cryptos à domicile, c'est chaque vendredi. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour 25 minutes au rythme de l'actualité crypto. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont là, présents, au rendez-vous. Ils répondent à l'appel de BFM Business le vendredi pour condenser ensemble toute cette actualité. J'appelle Alexandre Stachenko, il est auteur, conférencier, expert crypto indépendant, l'une des stars de l'écosystème, il nous accompagne. Bonjour Alexandre, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Owen Simonin nous accompagne aussi. Hacheur, bien sûr, sa chaîne YouTube, plus de 600 000 abonnés. Il est l'influenceur francophone le plus influent. Ça tombe bien, il fait bien son travail. Et en plus, il est à la tête de Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver également chaque vendredi à nos côtés. Dans un instant, on parcourra ensemble les titres, les headlines de la semaine sur l'univers crypto. Mais d'abord, le potentiel sur les cours des cryptos. Quel est-il ? Xavier Fenot est avec nous. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Associé Interactive Trading, le Bitcoin, là, en ce vendredi après-midi, on peut aussi nous suivre en replay, bien sûr, tout le week-end. Le Bitcoin est sous les 42 000 dollars en ce moment.
Oui, depuis ces derniers jours, l'enthousiasme du marché est un peu retombé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de gravité, en fait, d'un côté technique, puisque même si on a une petite dégradation à la rupture des 42 000, 41 000 dollars, on voit depuis quelques jours, finalement, que le marché tient dans son ensemble. On regarde pour ça la capitalisation totale, elle se maintient au-dessus des 1500 milliards de dollars. D'ailleurs, ça se ressent aussi au travers de l'indicateur Fear and Greed Index, qui mesure le sentiment d'euphorie ou de peur. Ben, on est justement à 50, sachant que 0, c'est panique totale, 100, c'est euphorie totale, on est en plein milieu. Donc à très court terme, l'objectif pour Bitcoin, ça va être de repasser 41 500, 42 000 dollars. Ça permettrait finalement de se rassurer que la tendance de fond reste haussière, et que cette petite perte d'enthousiasme n'était finalement que temporaire. Parce qu'effectivement, dans la mesure où on vient de 25 000 dollars, il y a des niveaux clés quand même à tous les étages, et en l'occurrence, surtout autour de 36 000 dollars. Tant qu'on tiendra ce niveau, Bitcoin peut végéter quelque temps autour des 40 000 dollars. N'oublions pas quand même que le marché évolue en cycle, en fait, avec des tendances qui se construisent dans le temps. Je rappelle que l'année dernière, pendant 6 mois, entre avril et octobre, Bitcoin faisait des oscillations, si on prend vraiment les niveaux extrêmes, entre 25 000 et 30 000 dollars pendant 6 mois. Donc depuis, sa valeur a été multipliée par 2, ou presque. On a eu l'ETF Bitcoin Spot qui a été largement intégré dans les cours. Donc voilà, faire des petits excès comme on a eu au-dessus de 45 000 dollars, puis comme on pourrait le faire en dessous de 40 000 dollars, ce serait pas vraiment étonnant. Donc techniquement, tant qu'on reste au-dessus des 36 000 dollars, on reste dans une tendance de fond haussière à moyen terme. Et deux résistances, 41 500 dollars pour ces prochaines heures à passer, et surtout, prochain vrai rempart, technique 42 500 dollars, c'est le point de passage de deux moyennes mobiles journalières.
Là, on parle du Bitcoin, un mot rapide de l'Ether, 2242 dollars en ce moment. Est-ce que l'Ether continue de rattraper un tout petit peu de son retard sur le Bitcoin ?
Alors, ça a été le cas pendant quelques jours, et il avait regagné justement de sa super performance face au Bitcoin pendant quelques jours, mais là, ça retombe à nouveau. Donc l'Ether, c'est un peu la même chose que Bitcoin. En fait, on revient sur les mêmes niveaux qu'à la fin de l'année dernière, 2100, 2200 dollars. Ça fait deux mois que ce niveau est acheté et que ce niveau relance les cours vers 2400 dollars. Donc ça sera vraiment le prochain niveau technique à tenir. Tant qu'il tient, tout va bien. Et pour enrayer cette petite pression baissière qu'on a à court terme, 2270 dollars à passer comme premier cap.
Xavier Fenot, associé Interactive Trading, merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagné. Et cette semaine, elle a été marquée effectivement par ces cours du Bitcoin qui tendent à végéter après avoir un petit peu reculé quand même depuis la validation des ETF Bitcoin. Ce repli des cours du Bitcoin est-il une simple coïncidence ? Ou faut-il y voir aussi l'impact des politiques monétaires, les banquiers centraux qui tentent de refroidir les marchés sur les baisses de taux à venir ? Ça commence peut-être à infuser et à marcher aussi pour le Bitcoin. Le Bitcoin reste-t-il corrélé d'une façon ou d'une autre au discours des banquiers centraux ? On va poser la question dans un instant à nos experts. L'Inde aussi, on va en parler. Le nouvel Eldorado crypto. Une étude montre que c'est le pays où le potentiel d'adoption sur le Bitcoin est peut-être le plus prometteur. Et puis Meta. Que nous concocte Meta ? Va-t-on vers un Libra bis ? Meta intrigue en effet les autorités américaines au point qu'un membre de la Chambre des représentants, un représentant américain, c'est une représentante d'ailleurs, c'est une femme, a choisi d'envoyer un courrier, une lettre à Mark Zuckerberg, une lettre inquiète, à propos d'un possible Libra bis que pourrait être en train de concocter Meta. On en parlera bien évidemment dans les pros des cryptos. On est parti, votre machine à refaire l'actualité s'enclenche. Laissez-la faire, ça va bien se passer.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Owen avec nous, Owen Simonin, salut Owen, welcome.
Bonjour.
Et Alexandre, Alexandre Sachenko. Bonjour Alexandre.
Bonjour Guillaume.
Bitcoin recule donc depuis le feu vert donné aux ETF. On nous dit que le marché vend la nouvelle. Très bien. Mais n'est-ce pas aussi ce repli des cours du Bitcoin, n'est-il pas aussi le signe d'une corrélation avec les politiques monétaires? Puisque les banquiers centraux, c'est vrai, tentent de refroidir les marchés depuis quelques semaines. Les marchés rêvaient de baisse de taux dès le mois de mars. Et peu à peu, les marchés traditionnels commencent à comprendre que les baisses de taux arriveront plus tard. Est-ce que c'est cela aussi que reflète, Owen, la baisse du Bitcoin?
Pour être totalement franc, c'est très délicat de savoir ce qui fait baisser Bitcoin aujourd'hui. Je pense qu'il y a également une petite désillusion sur le fait que les ETF allaient tout de suite faire exploser Bitcoin et que les arbres monteront enfin jusqu'au ciel. Ça a valorisé le marché sur toute l'année 2023, c'est sûr. L'attente de ces ETF, maintenant, on l'a compris. C'est la tuyauterie qui permettra à la liquidité des marchés instits de rentrer sur les crypto-monnaies. Maintenant, c'est pas ce qui fait que les gens veulent du Bitcoin maintenant. C'est pas ça qui va créer la demande, le fait qu'il y ait les outils ou non. Donc, il y a peut-être une désillusion court terme, le fameux « on achète » La news et on achète la rumeur pardon et on vendra la news. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. La deuxième chose, c'est évidemment ce report du calendrier de la politique monétaire qui fait que on va peut-être avoir une baisse des taux, mais plus tard, peut-être pas tout de suite, et donc ça pourrait affecter un petit peu les cours. Il y a une réalité cependant, Grayscale, GBTC, c'est le plus gros ETF. Beaucoup de gens le vendent, non seulement pour partir sur un autre ETF, donc on va pas dire que c'est un volume à la vente, parce que ce sont des gens qui sortent de Grayscale pour aller sur un autre ETF, notamment celui de BlackRock, qui a de tête 7 fois moins de frais, parce qu'on parle de 1,5% de frais pour celui de Grayscale, 0,2% pour celui de BlackRock, donc il y a beaucoup de gens qui vendent, mais pour se repositionner, donc pression de vente et pression acheteuse. Mais il y a également pas mal de personnes qui sont restées très longtemps sur le produit de Grayscale, qui avaient acheté du Bitcoin avec une décote quand il y avait un premium sur le produit, et qui aujourd'hui liquide massivement. Ça arrive à peu près tous les jours depuis que le produit est listé, et donc ça doit soutenir une certaine pression vendeuse. Maintenant, de là à dire qu'est-ce qui exactement affecte le prix du Bitcoin, oui. Je n'ai pas de boule de cristal, en tout cas je n'en ai toujours pas, Guillaume.
Moi j'ai le sentiment que le Bitcoin est quand même très très discipliné vis-à-vis des banquiers centraux. Les banquiers centraux disent rêvez pas, les baisses de taux elles arriveront plus tard que ce que vous pensez. Le marché traditionnel a mis du temps à le comprendre. J'ai l'impression que le Bitcoin l'a compris un peu plus tôt, un peu plus vite, et qu'il suit lui les discours des banquiers centraux, Alexandre.
Alors justement, c'est en fait Bitcoin est très difficile à analyser parce qu'il est polyforme. Donc c'est un ovni, personne ne sait le valoriser. Quand on regarde la vie de Bitcoin, en fait, il fait n'importe quoi. Pendant 2 ans, il est corrélé au Nasdaq. C'est son côté actif technologique, risqué. Les gens se comportent, le vendent en période de risque, etc. Mais, par exemple, ça fait 1 an qu'il est plutôt corrélé à l'or. Donc, en fait, ça a complètement changé. Et en fait, quand on regarde sur une période plus longue, il fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, de temps en temps, il est corrélé à un actif, de temps en temps à un autre, de temps en temps encore à un autre. Et en fait, j'allais dire, c'est pour ça que les gestionnaires d'actifs, maintenant, commencent à avoir des vraies thèses d'investissement dessus, parce qu'ils se rendent compte que si on est corrélé une fois par an à quelque chose de différent, en fait, c'est qu'on est anti-corrélé à un peu tout. Donc, c'est intéressant d'en mettre dans son portefeuille. Mais par contre, là où c'est intéressant de revenir sur la politique monétaire, c'est qu'il y a un indice, quelque chose pour le coup qui suit assez bien Bitcoin, qui est très corrélé à Bitcoin, c'est l'agrégat monétaire M2. Et effectivement, quand on regarde depuis 2013-2014, la chose qui est le plus corrélée à Bitcoin, c'est M2. Dès qu'M2 grandit, donc la quantité de monnaie, M2 c'est la monnaie au sens large, dès qu'M2 grandit, Bitcoin prend en valeur. Donc d'une certaine façon, en fait, Bitcoin se comporte comme on attend de lui qu'il se comporte, puisque c'est censé être un antidote à cela. Yves Chouefati parle souvent de l'antithèse de Bitcoin. Il dit en fait Bitcoin n'a pas de thèse d'investissement. Si vous pensez que les banques centrales vont redevenir orthodoxes de manière durable, si vous ne le pensez pas, vous avez une thèse d'investissement là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que ça pose une vraie difficulté de valorisation, et donc il faut se positionner sur une thèse d'investissement.
C'est moi où il avance en reculant quand même. Il y a un petit côté moonwalk du Bitcoin là. Non mais il avance, mais il recule. Mais s'il recule, c'est qu'il avance. Enfin, on entend beaucoup ça. En fait, tant mieux, il recule là, c'est bien. Tout à l'heure, Xavier nous disait « Ah, c'est bien, il végète, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. »
Pour ceux qui veulent acheter, oui, mais c'est pour ça que c'est moins risqué de se positionner, non pas en tant que trader, en tout cas si on n'est pas professionnel, mais en tant qu'investisseur avec une thèse d'investissement pour se dire « Voilà, mon objectif, c'est que d'ici 5-10 ans, pour moi, ça va remplacer l'or, peu importe. » Et dans ce cas-là, on se positionne.
Charles nous a écrit « Comment savoir si le Bitcoin est cher ou pas cher vu qu'il ne repose sur aucun actif tangible ?» nous dit Charles.
Justement, il pose la bonne question. C'est difficile à valoriser parce qu'il n'y a rien de tangible, parce qu'il n'y a pas de sous-jacent, parce que quand j'ai un Bitcoin, je n'ai la créance de personne et personne n'a de créance sur moi. Et donc, comme je le disais, le mieux, c'est de se faire une thèse d'investissement, non pas sur le fait que ça produirait des cash flows, des dividendes, des machins comme on pourrait évaluer une action, par exemple, mais c'est plutôt de se dire, voilà, mon marché cible, c'est ça. Donc, par exemple, supposons qu'on dise que ça va remplacer l'or. Bah, pour que ça remplace l'or à terme, mais là, à terme, c'est à vous de le définir, ça doit valoir 1 million, 1 million 5, 2 millions par bitcoin. Donc, c'est ça votre thèse et vous vous positionnez en ce sens-là. Mais vous ne pourrez pas faire d'évaluation précise maintenant, aujourd'hui, tout de suite, ça vaut combien?
Et tout autant qu'il est polymorphe, on voit des façons de le valoriser complètement folles et des fois atypiques, comme le coût de production pour les mineurs avec le matériel aujourd'hui et le coût de consommation en électricité. Les services rendus sur ces différents usages et si on devait l'évaluer, combien est-ce que ce service rendu? Mais la réalité, c'est que c'est un peu tout ça et c'est ce qui fait que c'est compliqué d'avoir une réponse mathématiquement correcte sur sa valorisation.
On va parler de l'adoption du Bitcoin. Il y a un pays dont on parle énormément en ce moment. Un indice. Oui, c'est la Norvège.
Oh, la Norvège.
C'est l'Inde.
On danse comme ça en Norvège.
Oui.
Je connaissais pas bien la Norvège.
C'est réchauffement climatique. Ouais. Pays plus peuplé du monde, l'Inde. Plus grande démocratie du monde, d'ailleurs, qui va voter cette année, l'Inde. Et sur les marchés, elle dépasse désormais la Chine. La bourse indienne a dépassé Hong Kong il y a quelques jours en capitalisation. Et bien, il se trouve qu'il y a une sorte de passation de pouvoir aussi dans le marché crypto. Dans les cryptos, l'Inde monte aussi en puissance. C'est ce qui ressort, Owen, d'un rapport du cabinet Altindex.
Tout à fait. En fait, il y a naturellement les regards sont posés dans le monde sur l'évolution de la loi. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Rappelons que en 2015-2016, il n'y avait pas vraiment de loi et de cadre pour les crypto-monnaies à peu près partout dans le monde. C'est de plus en plus clair en France, en Europe, c'est en train de se faire avec la loi MiCA. On regarde beaucoup les États-Unis, hein, ces fameux produits, les ETF qui peuvent arriver, mais également la position de la SEC vis-à-vis de la qualification de certains produits en commodities ou en securities. Et c'est vrai que le marché asiatique est très attendu. Pourquoi ? Déjà parce que la Chine nous a habitués à c'est interdit, c'est autorisé, c'est interdit, c'est autorisé. À côté de ça, parce que c'est quand même d'un point de vue démographique une quantité très importante de potentiels investisseurs et entreprises. Et d'ailleurs, on l'a vu cette année, que ce soit Hong Kong qui commence à clarifier la position vis-à-vis des crypto-monnaies, que ce soit Singapour qui devient le hub de beaucoup de grandes entreprises parce que c'est maintenant beaucoup plus clair, et également l'Inde. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue démographique, c'est là-bas qu'on a les investisseurs qu'on dit les plus dynamiques, et c'est là-bas qu'on estime que d'ici quelques années, il y aura presque un utilisateur et détenteur de crypto-monnaies sur quatre qui sera en Inde. Et même de très grandes entreprises qui, pour des raisons politiques, ne peuvent pas encore exercer là-bas, qui ont déjà mis des frais, qui se sont déjà installés et qui attendent simplement un lever de drapeau pour pouvoir, tout simplement, servir des produits sur ce marché. L'étude, justement, d'Altindex prévoit que les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui, qui comptent aujourd'hui à peu près 670 millions d'utilisateurs dans le monde, devraient monter à 830 millions d'ici 2024. Et il prévoit même de passer 1 milliard d'utilisateurs dans le monde de crypto-monnaies d'ici 2028. Mon pronostic à moi, c'est que si on est plus de 830 millions à détenir des crypto-monnaies avant la fin de cette année, on dépassera le milliard bien avant ça.
Oui, et un utilisateur sur quatre serait indien. Il se trouve qu'aujourd'hui, un terrien sur cinq est déjà indien. Les pros des cryptos, votre machine a condensé le temps. Une semaine d'actu en à peine 25 minutes. On continue. On a entendu des critiques encore ces derniers jours sur les cryptos qui servent à blanchir l'argent. On a beaucoup vu cette critique ces dernières années, encore récemment. Mais j'ai un chiffre, on a un chiffre à vous apporter. 3100 milliards de dollars, c'est le montant utilisé à des fins illicites. Rien qu'en 2023 par, non pas les utilisateurs de crypto, mais par le système financier traditionnel. 3100 milliards de dollars rien qu'en 2023 à des fins illicites. J'imagine que ce chiffre, vous le prenez avec gourmandise, Alexandre, je vous connais.
Moitié gourmandise. Oui. Oui, parce que c'est la gourmandise de voir exposer une forme d'hypocrisie qui dure depuis des années. Hein. Dès qu'on trouve un euro de blanchi avec les cryptos, ça y est, il faut interdire la crypto, il faut la restreindre, il faut mettre des contrôles partout, etc. etc. Par contre, quand il y a un Pandora Papers, un Panama Papers, un LuxLeaks, un rapport du Nasdaq, un machin, où à chaque fois on compte en milliers de milliards, c'est-à-dire, encore une fois, là, les 3100 milliards, pour se donner un ordre de grandeur, c'est effectivement 5 ou 6 fois la capitalisation total de Bitcoin. Et donc là, on a un rapport qui sort comme ça, qui ne fait même pas le même bruit que Bitcoin quand il est utilisé manière pouillème pour des transactions. Donc effectivement, il y a la
gourmandise. Là, c'est un rapport très sérieux du Nasdaq lui-même.
Exactement. Voilà. Donc, oui, ça, c'est la partie gourmandise. Ce qui serait bien, c'est qu'on en sorte de ce truc-là. C'est-à-dire que les flux illicites existeront toujours. Et donc, si on commence à se balancer, il y a plus de flux illicites dans la finance traditionnelle, et que le lendemain, la finance traditionnelle, non, regardez, j'ai trouvé le Hamas qui se finance en crypto. Oui, mais moi, j'ai trouvé les cartels colombiens qui se financent en dollars. Et moi, j'ai trouvé les machins. Bah, en fait, ça va durer 15 ans, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, les flux passent. plus le médium d'échange est utilisé, plus il est utilisé aussi par les criminels. Ça n'en fait pas pour autant quelque chose qu'il faut interdire. On va pas interdire le dollar parce que des criminels l'utilisent. Donc moi, j'aimerais juste bien qu'on en sorte de ces choses-là et que ça revienne à proportion. Je terminerai là-dessus. Elizabeth Warren, en ce moment, a déclaré la guerre aux cryptos aux États-Unis en utilisant cet argument tout le temps, en disant voilà, ça, c'est le blanchiment, les flux illicites, donc il faut l'interdire. Bah, voilà, soyez cohérents. Si vous voulez interdire, ça veut dire que vous voulez interdire le dollar. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des discussions d'adultes?
Mais qu'est-ce qu'il fourbit? Meta. Qu'est-ce qu'ils fourbillent, Meta? Est-ce qu'ils sont en train de préparer chez Meta un nouveau projet crypto secret? Préparerait-il un Libra bis? Une membre du Congrès américain, en tout cas, s'en inquiète et a envoyé, Owen, une lettre inquiète à Mark Zuckerberg.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, oui, les États-Unis ont, je pense, vraiment très peur d'avoir, d'une manière ou d'une autre, Libra, Meta, Facebook, Diem, quel que soit le nom que, ou la forme, la personne morale qui incarnera ce nouveau service, ils ont peur de voir la plus grande banque centrale du monde arriver. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Pourquoi ? Parce que Meta s'adresse à la...
Pour vous, c'est la plus grande banque centrale du monde.
S'ils lancent un stablecoin, ou qu'ils arrivent à créer une monnaie, entre guillemets, cryptographique ou non, peu importe, et qu'ils arrivent à adresser les utilisateurs qu'ils ont et qui sont non bancarisés, ça pourrait très vite devenir un établissement bancaire, une banque centrale, un établissement qui distribue des services de paiement de valeur, un service de monnaie électronique, peu importe la forme que ça va donner. Ça pourrait devenir le plus gros mastodonte et le plus gros établissement financier de la Terre assez rapidement, étant donné que il y a une personne sur quatre qui n'est pas bancarisée. Facebook s'adresse à des milliards d'utilisateurs à travers le monde, ça irait très vite. Et c'est ce qui peut faire peur au fameux dollar américain ou au fameux gouvernement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu ce changement de nom de Facebook en Meta. Ils avaient déposé des marques crypto, notamment des marques Meta Payment, qui pour l'instant n'ont jamais été utilisées. Il y a eu des déclarations publiques, comme quoi les employés ont précisé qu'il n'y a aucun travail lié à la crypto-monnaie en interne. Il y en a également d'autres qui ont précisé qu'il n'y a aucun partenaire qui travaille avec Meta sur de la crypto-monnaie. Et en attendant, comme ça fait quand même peur et que depuis on est passé de Libra à Diem qui a été vendu à Silvergate, une banque qui a fait faillite depuis, on se dit, bon, qu'est-ce que Meta va finalement faire dans son système de paiement? Est-ce qu'il y a des activités Web3? Est-ce qu'il y a prévu à un moment ou à un autre de faire une crypto-monnaie? C'est tout ce qui compose cette lettre, toutes ces demandes que Maxine Waters a émises à Mark Zuckerberg, en précisant également, voilà, quels vont être vos projets Web3? Et puis maintenant, si vous vous êtes positionné, que vous avez déposé des marques, est-ce que même dans votre fameux Meta Horizon World, qui va être le métaverse, je pense, de Meta, qu'avez-vous prévu? Et on a besoin de savoir non pas ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous allez faire?
Cette lettre d'une représentante américaine à Mark Zuckerberg, nous aussi on est curieux de savoir ce que Meta concocte, éventuellement, bien sûr, rien n'est certain. Voici venu le moment de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn également, BFM Crypto, nos différentes verticales BFM Crypto. Vous pouvez encore vous y abonner. Owen et Alexandre, êtes-vous prêts à répondre à cette question qui claque?
Je suis prêt.
Vous êtes prêts?
Je suis prêt.
Vous l'aurez voulu. Voici la question de la semaine. Jugez-vous la fiscalité sur les cryptos en France très attractive ou pas attractive? Je vous laisse un instant de réflexion. Alexandre.
Hypocrite.
Moi ?
Non, la fiscalité.
Owen.
Hypocrite. Vraiment hypocrite.
Hypocrite !
Voleur.
Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis sur la question. La fiscalité sur les cryptos en France est-elle très attractive ou pas attractive ? N'hésitez pas à nous laisser votre avis, bien sûr, en commentant aussi cette question qu'on vous a posée sur nos différents réseaux. Vous trouvez la fiscalité française attractive, hypocrite sur les cryptos? Pourquoi hypocrite?
Parce qu'elle danse sur tous les pieds à la fois. Elle nous dit que Bitcoin c'est un actif numérique, mais ça remplit plus la définition. Mais en même temps, si ça remplit plus la définition, on doit lui reconnaître son statut de monnaie. Mais comme on veut pas lui reconnaître son statut de monnaie, du coup, on répond pas aux questions qui ont été posées au gouvernement. Et donc, en fait, c'est devenu un jeu politique qui est en fait assez lourd pour le contribuable, parce qu'il ne sait pas à quelle sauce il est mangé et personne lui répond. Je rajouterais par-dessus ça qu'il y a plein de dispositions qui s'appliquent sur les actifs financiers normaux qu'on a refusé d'appliquer pour des raisons obscures aux cryptos. Je pense par exemple au report des moins-values. Pourquoi on ne peut pas reporter ces moins-values? C'est le seul actif sur lequel on ne peut pas le faire.
Mais la flat tax,
alors c'est
oui,
justement
c'est bien la flat tax.
Pour le reste, pour revenir à la question attractif ou pas attractif, en fait pour moi, c'est un package. C'est-à-dire, on peut pas dire ce truc-là, la fiscalité. On est en France, donc en fait, on prend le package ou on prend pas. Moi, effectivement, si je paye 30% de flat tax, mais derrière, j'ai des hôpitaux publics et gratuits qui fonctionnent, des routes qui fonctionnent, des écoles qui fonctionnent, etc. Bon, ça va. Bon, après, est-ce que ça fonctionne? C'est encore un autre débat. Mais en tout cas, je suis pas de ceux qui voudraient mettre la taxe à zéro comme si c'était le seul facteur indicatif de la société, quoi.
Cette question, vous la posez ce matin sur nos réseaux sociaux et vous répondez attractive ou pas attractive finalement la fiscalité crypto en France? Pas attractive. À combien? 89%. Waouh. Vous êtes dans les 89 plutôt, Owen, ou dans les 11 qui la jugent très attractive? On a compris, vous la jugez hypocrite, mais à un moment, il faut se mouiller, les gars.
Je pense qu'elle est pour l'instant injuste, et c'est pour ça que je la mettrais du coup hypocrite et donc pas attractive, parce qu'en réalité, il y a des avantages. Le fait que jusqu'à présent, on puisse changer sa crypto-monnaie en stablecoin sans avoir à passer par la case impôt, tant qu'on reste exposé au marché crypto. Il y a ces petits avantages-là. Mais oui, dès qu'on se retrouve à payer de l'impôt et qu'on peut pas faire un report de ses moins-values, on se dit qu'on n'a pas tout le package d'autres actifs et donc on joue encore. En fait, c'est ça, on sait pas sur quel pied danser. Ça, c'est pas juste. C'est pas correct et on sait qu'on est dans une fiscalité qui va évoluer. Et donc ça ne convient pas pour l'instant, il faut qu'il y ait des clarifications.
Pourquoi on pose cette question cette semaine? Parce qu'il y a un problème stablecoin. Vous avez cité il y a un instant les stablecoins, Owen.
La Cour des rares comptes... avantages encore présents.
Oui, mais profitez-en.
Mais ça fait partie de l'hypocrisie, les stablecoins. Pardon.
Ça va. La Cour des comptes aimerait bien voir la fiscalité et la régulation sur les cryptos renforcées. Et c'est le site Waltio d'ailleurs qui nous l'a appris cette semaine. La Cour des comptes a dans son viseur, les stablecoins. Elle voudrait fiscaliser davantage les stablecoins, Owen.
Oui, et non seulement le stablecoin, et le passage au stablecoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros intérêt que peuvent avoir certains investisseurs crypto, c'est que tant que vous restez en crypto-monnaie, tant que vous ne voulez pas enregistrer votre plus ou moins value pour revenir sur de l'euro, vous n'avez pas de fait générateur d'impôts. Et donc, ça, c'est un certain avantage. On est dans les cryptos, on est sur du bitcoin, de l'ether, on a gagné ou perdu. On peut repasser dans un actif crypto moins volatile, le stablecoin, et ne revenir en euros que lorsqu'on est prêt à sortir de ses investissements. Si on taxe le passage au stablecoin, déjà, ce sera pas une solution parce qu'il y aura toujours différentes formes de stablecoin. Hein. Un stablecoin adossé à l'or, un stablecoin adossé à l'argent. Il y en aura des solutions de ne pas repasser sur la définition stablecoin adossé à du fiat. Mais c'est une des rares flexibilités que l'on peut reconnaître à la fiscalité française, l'un de ces arguments d'attractivité qui pourrait être remis en cause.
Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Vous suivez aussi au quotidien avec Amaury de Tonquédec dans BFM Crypto, le club, l'actualité de 15h à 15h30 du lundi au jeudi. 16h24, séisme à Neuchâtel, mesdames, messieurs.
C'est la Norvège.
Ça tangue un peu, là. Ça a secoué. Vous avez senti le petit séisme, là, à Neuchâtel? Oui. Un petit choc, là, chez nos voisins suisses. La banque cantonale de Neuchâtel... Oui, on a compris.
Allez, encore un peu.
Ça faisait un fond intéressant, quand même. Hein.
La banque cantonale de Neuchâtel a décidé de stopper ses relations avec certains de ses clients crypto, et c'est un vrai petit séisme, quand même, en Suisse. La Suisse a longtemps attiré parce que les banques, justement, y étaient plus crypto-friendly que les banques françaises. Est-ce qu'à l'avenir, Alexandre, ce sont les entreprises suisses qui choisiront de s'installer en France?
Ça me semble très long shot, comme on dit. Non, je ne pense pas. La Suisse a un environnement concurrentiel qui est plus favorable que la France. La banque de Neuchâtel, j'ai l'impression qu'elle fait un peu une décision un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle a choisi le mauvais côté de l'histoire. Elle aurait pu interdire à tout le monde il y a 6 ans. Elle aurait été dans le bain de tout le monde. Mais en fait, elle décide de le faire quand ça devient mainstream. Donc je comprends pas trop la décision de cette banque qui va perdre des clients, qui va créer une lutte en Suisse contre elle et qui va probablement créer un exil dans la mesure où les cantons en Suisse sont en concurrence les uns avec les autres, donc ça coûtera pas très cher à une boîte de Neuchâtel d'aller dans le canton d'à côté. Donc une décision pour moi qui est pas très compréhensible. Ça va être peut-être embêtant d'un point de vue praticité pour les Neuchâtelois, mais je pense qu'ils trouveront un autre établissement. D'autant plus, je rajoute aussi une autre chose, c'est qu'en Suisse on peut faire des boîtes sans compte bancaire, on peut créer du capital en crypto. Donc on n'a pas besoin de compte bancaire théoriquement si on a envie de le faire. Mais bon, c'est un peu tard pour la banque de Neuchâtel pour le faire. Et peut-être un lien, mais là ça relève pour l'instant du complotisme, peut-être un lien avec l'affaire sur la FINMA qui est en procès contre l'industrie de crypto en Suisse. Et majoritairement, les gens qui font ça sont à Neuchâtel.
Bon. Il y a pas mal de sujets qui animent l'actualité crypto en ce moment. On a un programme très très riche, mais il nous reste à peine 52 secondes. Owen, c'est 52 secondes. Vous voulez qu'on les consacre à quelle thématique?
Le positionnement du régulateur américain.
Il vous reste 45 secondes.
Ok. Non, il y a quelque chose de relativement intéressant qui a interpellé tout le monde et qui montre encore le flou et le fait que le régulateur américain, lui aussi, ne sait pas sur quel pied danser. Il y a des procès en cours vis-à-vis de Binance et de Coinbase, notamment sur la qualification de certains actifs et de certains services de ces deux plateformes. Et deux équipes différentes de la SEC ont réussi, devant les tribunaux, à donner une réponse différente. La première, face à Coinbase, en disant que les tokens, les crypto-monnaies, en elles-mêmes, ne sont pas des securities. D'ailleurs, le conseil de Coinbase a dit « Mais oui, c'est ce qu'on vous dit et on se demande d'ailleurs pourquoi on est là aujourd'hui devant vous. » Et de l'autre côté, ils ont réussi face à Binance à dire tout l'inverse. C'est le token lui-même qui est une security. Et donc, on arrive à avoir deux discours totalement opposés, diamétralement opposés du régulateur américain dans deux procès différents. Oui. Plus savoir sur quel pied danser.
Intéressant. Et sur le hack qui avait animé le début d'année dans l'écosystème, ça a avancé. Il y a une enquête en cours ou pas?
Il
le hack,
semble le hack apparemment, de la SEC. C'est du coup le hack de leur compte Twitter. D'ailleurs, Twitter avait précisé qu'il n'y avait pas de tout FA sur le compte et encore, c'était une tierce qui aurait réussi à prendre l'accès. Et apparemment, il y aurait une enquête du FBI. Encore une fois, qu'est-ce qu'on entend sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui se passe réellement? Mais il y a deux sénateurs américains qui ont bien prévu de savoir ce qui s'est passé.
Nos affaire deux chasseurs d'infos, affaire comment, Alexandre?
Affaire à suivre.
Affaire à suivre. Vous savez où? BFM Crypto. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alexandre Stachenko, auteur, conférencier, expert crypto indépendant, et Owen Simonin, il est à la tête de Meria et votre chaîne YouTube Hacheur avec un H au début. Combien d'abonnés?
Presque 650.
Ah, ça monte, ça monte.
Mille.
Ça monte.
On va vers le million.
Précisez quand même, 1000.
Ça monte pas en moonwalk là pour le coup.
650 000. Ah non, ça, non là c'est.
Allez, to the moon.
Unilatéral.
Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Merci, et bon week-end.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.